lutte de classe, numéro 138, septembre-octobre 2011. La crise de 2011. L'histoire ne se répète pas, elle bégaye. 3 ans, pour ainsi dire de date à date, après la faillite retentissante de la banque américaine Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, qui a marqué le début d'une grave crise bancaire, une nouvelle crise bancaire menace l'économie. La menace est plus grave encore qu'en septembre-octobre 2008. À l'époque, c'était les banques qui étaient méfiantes les unes vis-à-vis des autres en raison du volume important des titres pourris qu'elles détenaient. Elles avaient pratiquement stoppé les myriades d'opérations de crédit entre elles, au risque d'asphyxier toute la vie économique. Ce sont les États et les banques centrales qui avaient dû intervenir en ouvrant tout grand leurs guichets, en acceptant de garantir les crédits les plus pourris, en inondant d'argent les circuits financiers, jusqu'à ce que ces messieurs les banquiers, assurés qu'ils ne perdraient rien, mieux qu'ils y gagneraient, consentent à recommencer à exercer leur métier et à alimenter ce flux de crédits qui constitue le système sanguin de l'économie capitaliste. Mais voilà qu'aujourd'hui la méfiance n'est pas entre les banques, ou, plus exactement, n'est pas seulement entre les banques. Elle se manifeste envers les États eux-mêmes. L'État grec n'est plus le seul en cause. La suspicion qu'un État se révèle incapable de payer ses échéances s'est portée sur l'Espagne, le Portugal, l'Italie enfin, pour se limiter aux pays européens. Mais elle atteint même les États-Unis, dont une agence de notation a dégradé la note de fiabilité. Il serait oiseux de se demander quelle est la signification réelle des notations des agences du même nom, astrologues attitrés d'un monde économique chaotique. Reflète-t-elle la méfiance des possesseurs de capitaux en quête de placements profitables? Provoque-t-elle elle-même la méfiance? À une époque où la moindre rumeur venant de la moindre déclaration d'un quelconque responsable de l'économie entraîne des déplacements de capitaux considérables, la question n'a aucune espèce d'importance. Les causes de cette méfiance sont en tout cas les mêmes pour les États-Unis que pour la Grèce, même si les conséquences ne le sont pas. Les États-Unis restant la plus puissante économie du monde, note dégradée ou pas, au moment critique, ils apparaissent toujours comme un refuge pour des capitaux à la recherche de placements. Pour sortir le système bancaire de la banqueroute et stopper l'assèchement des crédits, en 2008, tous les États du monde, et en tout cas tous ceux qui en ont les moyens, ont utilisé les mêmes remèdes. Mettre de l'argent à la disposition des banques. Ils ont tous vidé leurs caisses pour cela. Ils ont tous emprunté des sommes colossales auprès du même système bancaire qu'ils venaient de sauver. L'endettement des États s'est littéralement envolé après la crise bancaire de 2008. Leurs montants ne sont comparables qu'aux périodes de guerre où toute l'économie, concentrée autour de l'industrie d'armement, fonctionne à crédit. Les dettes se gonflent d'intérêts plus ou moins importants en fonction de l'État débiteur. Les différences entre les États se creusent quant aux intérêts plus ou moins élevés dont ils sont taxés suivant leur puissance économique, voire leur situation politique, quand ce n'est pas la rumeur du jour. Les États sont enserrés, en réalité, dans les mêmes nœuds coulants, mais à des degrés divers. Plus ils sont suspectés d'avoir du mal à rembourser leurs dettes, plus on ne leur prête qu'à des taux élevés, voire usuraires. Mais plus cela augmente leurs dettes, plus ils ont du mal à rembourser. Le remède devenu poison. Pendant quelque temps, le mécanisme mis en place après la crise de 2008 a eu toutes les raisons de plaire aux banquiers. Ils tournaient rond. Les dettes des États rapportaient gros et les profits des grandes banques caracolaient à des hauteurs d'avant la crise bancaire. Mais la machine fonctionnait dans le vide. L'évolution économique n'était pas du tout à la hauteur de la rentabilité exigée par les capitaux financiers. Le fait était cependant masqué par une autre évolution qui semblait parallèle, celle des profits des grandes entreprises industrielles et commerciales. Les banques, qui se procuraient de l'argent à bon marché auprès des banques centrales, estimèrent qu'elles pouvaient prélever des intérêts élevés non seulement sur les États, mais aussi sur le secteur productif, puisque celui-ci rapportait aussi du profit élevé. Mais en réalité, les banques, et derrière elles, toutes les entreprises capitalistes pour le compte desquelles elles agissaient, étaient en train de scier la branche à laquelle tout cela était suspendu. Pour financer les sommes de plus en plus élevées versées chaque jour au système bancaire, tous les États imposent des plans d'austérité à leur population. Aussi divers et variés que soient d'un pays à l'autre les plans d'austérité, aussi fertile que soit l'imagination des gouvernements bourgeois pour inventer des mesures destinées à vider les poches des différentes catégories populaires, elles affaiblissent toutes la capacité de consommation de la population. c'est également le résultat de la diminution du nombre de travailleurs de l'État, de l'affaiblissement des services publics, des ponctions sur la protection sociale, sans parler des mille et une mesures dont beaucoup sont passées inaperçues parce qu'elles ne touchent que des catégories mal placées pour se défendre, handicapés par exemple. Derrière les formes modernes du capital financier, derrière les produits financiers de plus en plus sophistiqués, l'économie capitaliste s'enfonce de plus en plus dans la même contradiction fondamentale entre la capacité de consommation limitée des classes populaires et le besoin du capital de s'accroître sans cesse, qui constitue la raison fondamentale des crises de l'économie capitaliste. Un autre mécanisme du capitalisme en crise a agi dans le même sens. Les grandes entreprises réalisaient certes des profits élevés, mais au détriment de toute l'économie. Ces profits élevés des entreprises de production étaient dus, en premier lieu, à la surexploitation de la classe ouvrière. Sortir une production supérieure, avec un nombre plus restreint de travailleurs, et plus mal payés, est à la base des profits des grandes entreprises, au-delà de la diversité des moyens pour y parvenir. Les licenciements, la diminution des effectifs, l'écrasement de la masse salariale distribuée restreignent sans cesse le marché de la consommation. Un autre phénomène s'ajoute à cela pour expliquer les profits élevés des entreprises du CAC 40. La pression croissante sur leurs fournisseurs petits et grands, mais moins grands qu'elles, leurs sous-traitants, etc. Les profits élevés des entreprises les plus puissantes ont pour contrepartie non seulement l'écrasement du niveau de vie de la classe ouvrière, mais aussi la fragilisation du tissu économique capitaliste lui-même. L'actualité attire l'attention sur un autre, entre guillemets, « dégât collatéral » de la crise financière de 2008, l'envolée de l'endettement des collectivités locales. Derrière le sensationnalisme journalistique du titre à la une du quotidien Libération du 21 septembre 2011, entre guillemets, Dexia, la banque qui a ruiné 5000 communes, il y a une réalité, une bombe à retardement pour les dites collectivités locales. La dite banque et quelques autres ont placé auprès des collectivités locales, villes, départements, régions, mais aussi établissements publics locaux, hôpitaux, etc., des produits financiers présentés à l'époque comme avantageux, mais dont les taux, sophistiqués et obscurs, étaient indexés sur d'autres produits financiers ou sur diverses devises. Résultat, les taux se sont envolés et les sommes dues avec. Un département comme la Loire s'est retrouvé à devoir payer un intérêt de 22 millions sur un emprunt de 96 millions. L'hôpital de Dijon a devoir s'acquitter de 31 millions d'intérêts en sus d'un emprunt de 111 millions. 25 milliards d'euros de produits toxiques de ce genre ont été placés par la seule Dexia. Conséquences prévisibles, des collectivités locales étranglées, des impôts locaux augmentés et l'effondrement des services publics locaux faute de moyens qui devront être consacrés aux banques. Mais si tout cela pèse sur les classes populaires, cela mine aussi, entre guillemets, la demande solvable qui, seule, compte pour les capitaux privés. Les conséquences destructrices de l'agitation de la finance. Le système capitaliste est en train d'illustrer, dans le contexte du capitalisme ultramoderne, cette expression si juste de Lénine, entre guillemets, « le capitaliste est prêt à vendre la corde pour le pendre ». Le temps de la bonne vieille corde est aujourd'hui révolu. On a inventé mieux. Une multitude de produits financiers aux noms anodins ou exotiques, représentant une multitude de formes de crédits ou d'assurances pour garantir ces crédits, qui s'achètent, se vendent et se déplacent d'un bout à l'autre de la planète. Parmi eux, les papiers représentant une fraction des dettes d'un État, les dettes souveraines, découlant d'emprunts pour 10 ans, 1 an, 1 mois, voire 1 jour. Les marchés, c'est-à-dire les services spécialisés des banques dans les placements financiers, un temps émerveillés par ces magnifiques instruments d'enrichissement que sont les dettes souveraines, qui, en outre, passaient pour avoir l'avantage d'être plus sûrs que les dettes privées, ont commencé à douter de la capacité des États à rembourser leurs dettes. D'où la panique du système financier. D'où les déplacements de masse considérables de capitaux migrant d'un papier d'État à un autre. Et ce d'autant plus que, par un retour de boomerang, la méfiance à l'égard des États, ceux en tout cas suspectés de ne pas pouvoir honorer toutes leurs dettes, est en train de se retourner contre les banques elles-mêmes. En 2008, la méfiance entre banques avait été alimentée par la suspicion à l'égard des papiers représentant des dettes hypothécaires américaines. Aujourd'hui, ce sont les titres représentant des dettes souveraines de certains États qui soulèvent la même suspicion. Ce n'est pas pour rien que les prix des actions des banques françaises s'affaissent les uns après les autres. la Société Générale ou le Crédit Agricole avaient été les premiers à se jeter sur les dettes de l'État grec qui rapportaient gros. Aujourd'hui, certaines de ces banques ont perdu sur leur capitalisation boursière, c'est-à-dire sur la valeur totale de leurs actions, plus qu'elles n'ont gagné sur la dette grecque. Les prix des actions des banques européennes, même réputées parmi les plus sûres, comme BNP Paribas, font du yo-yo. Le Monde, des 18 et 19 septembre, constate, ouvrez guillemets, à la hausse comme à la baisse, les marchés n'ont manifestement pas besoin d'EPO pour se surpasser. Moins 12,4% lundi 12 septembre, plus 7,2% le lendemain, moins 3,9% mercredi, plus 13,4% jeudi et moins 7,6% vendredi. Telles ont été les variations quotidiennes du cours de la bourse de BNP Paribas. Fermez les guillemets. Chacune de ces variations a fait son lot d'heureux parmi les spéculateurs, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Mais, du coup, la défiance s'accroît à l'égard des banques européennes. La récente nouvelle que Siemens a retiré une partie de ses sommes gérées par la Société Générale, 500 millions d'euros tout de même, par défiance envers une banque trop lestée de papier de la dette grecque, illustre un comportement plus général. L'entreprise, pourtant industrielle, est en même temps accréditée comme banque, et à ce titre, elle a pu virer la somme retirée à la Société Générale vers la Banque Centrale Européenne, jugée manifestement plus fiable. Les banques européennes ont à leur tour tendance à déposer leurs liquidités du moment à la BCE plutôt que de les confier à une autre banque privée. Devant la menace de faillite que représente pour les banques européennes le fait d'être trop chargées de papiers de crédit susceptibles de se révéler sans valeur, il y a une pression de la part des institutions internationales de la bourgeoisie, le FMI notamment, pour qu'elles se recapitalisent, c'est-à-dire qu'elles augmentent la quantité de capitaux qui leur appartiennent en propre par rapport aux capitaux déposés chez elles. Mais comment inciter les marchés financiers, les possesseurs de capitaux, à entrer dans le capital d'une grande banque lorsque celle-ci semble menacée? Aussi, de plus en plus de voix se font entendre du côté des porte-paroles de la bourgeoisie pour que, au cas où les marchés seraient réticents, les États prennent le relais. Entre guillemets, les banques ont besoin d'être recapitalisées et le seul acteur qui puisse les aider, c'est l'État, affirme le PDG en vue d'une société de placement. JDD du 11 septembre. Le même PDG est plus concret encore en affirmant que la recapitalisation, entre guillemets, doit prendre la forme d'une participation de l'État au capital des banques françaises de l'ordre de 30%. Le mot « nationalisation des banques », si longtemps tabou, redevient à la mode. Le milieu politique n'a pas tardé à s'en emparer. Ainsi, François Hollande. S'il advenait qu'il y ait un défaut de la Grèce et que les banques soient amenées à constater des pertes, il y aurait un appel à l'État, comme lors de la crise des subprimes. Dans ce scénario, à la différence de 2008, je recommanderais que l'État ne prête pas aux banques, mais prenne une participation à leur capital. Fermez les guillemets. Le JDD du 11 septembre, qui relate ce propos, rapporte celui de Jean-François Copé, le secrétaire national de l'UMP, pour qui la méthode est dépassée. Entre guillemets, il existe des techniques sophistiquées qui permettent d'éviter la nationalisation. Ces deux citations illustrent parfaitement que la seule différence entre un dirigeant politique de gauche et son adversaire de droite réside dans le choix des mots et des techniques. Ils sont entièrement d'accord pour faire jouer à l'État ce rôle de béquille pour grand capital qui a été le sien dans un passé récent. Si l'idée d'un recours plus massif à la participation de l'État au capital des banques se confirme, on peut parier que la gauche s'en emparera en présentant les nationalisations comme une solution, entre guillemets, socialiste, aux dégâts de la crise. Et en cas de victoire de la gauche aux élections, on pourra compter sur le Parti communiste, sur le Front de gauche et bien d'autres pour tenter de rendre présentable aux yeux des classes populaires le recours à l'État dans le sauvetage du capital financier. Aussi, face à l'anarchie du système bancaire, aussi bien que face aux divers projets de nationalisation, il faut affirmer que l'intérêt de la société est d'exproprier les banquiers sans indemnité ni rachat et de réunir les établissements financiers aujourd'hui concurrents en une banque unique contrôlée par la population. Leur préoccupation : comment sauver les banquiers ? Une fois de plus. Toutes les discussions dans les sommets dirigeants tournent, comme en 2008, autour de la meilleure façon de sauver le système bancaire. Les opérations de sauvetage sont discutées sous des dénominations aussi diverses que mensongères. Entre guillemets, sauver la Grèce, est l'expression la plus standard. Ou encore, sauver l'euro, sauver l'Union européenne, éviter l'implosion du système monétaire international. Mais derrière ces différentes dénominations, il y a la même préoccupation. La récente réunion au sommet des ministres de l'économie de la zone euro à Wrocław, en Pologne, en présence du secrétaire d'État américain au Trésor, est significative de la médication qu'ils envisagent, mais aussi de la difficulté de l'administrer. Les États-Unis sont engagés depuis plusieurs semaines, comme en 2008, dans une opération de guichets ouverts pour les banques privées, en leur rachetant notamment les titres les plus suspects de perdre de la valeur. Le Monde de l'économie, 6 septembre 2011, estime que, ouvrez les guillemets, la Fed, la banque centrale américaine, a ainsi absorbé, depuis le début de la crise, environ 1 000 milliards de titres de la dette publique américaine, après avoir absorbé encore davantage de titres privés. Fermez les guillemets. Cela revient à fabriquer de la monnaie supplémentaire, au risque de relancer et d'aggraver l'inflation dans cette monnaie. À cette réunion des ministres de l'économie de la zone euro, le secrétaire d'État américain au Trésor, invité, s'est même permis de sermonner brutalement ses collègues, leur reprochant leur réticence à en faire autant et à autoriser la Banque centrale européenne à ouvrir les vannes du crédit aux banques privées. Reproche pas tout à fait fondé, car la BCE rachète aux banques privées une quantité croissante de titres pourris dont leurs comptes sont lestés. Mais ce qui, aux États-Unis, ne nécessite que la décision du gouvernement, qui peut déjà ne pas être simple, à en juger par la guerre politicienne menée par les Républicains contre Obama sur cette question, est particulièrement compliqué dans le cas de la zone euro, où il faut l'accord de chacun des 16 gouvernements, sans parler, le cas échéant, de leurs parlements respectifs. Qu'il soit donc dit ici qu'une nouvelle période d'inflation est inévitable, en témoignent les hausses de prix en cours. Il est important pour les salariés de s'y préparer. Les capitalistes, plus ou moins maîtres de leurs prix de vente, savent les indexer sur les hausses de prix des matières premières qu'ils utilisent, sur les hausses de prix du pétrole ou de l'électricité, etc. Il est vital pour les salariés d'imposer une indexation automatique de leurs salaires sur les hausses de prix, l'échelle mobile des salaires. La tumeur cancéreuse de la finance sur une économie capitaliste malade de son propre fonctionnement. C'est la longue période de stagnation ou de faible croissance de l'économie mondiale qui a conduit au gonflement monstrueux de la finance et à la multiplication des crises financières plus ou moins graves qui ont ponctué l'histoire économique de la décennie passée. Affaire Enron, effondrement des caisses d'épargne américaines, crise d'Internet, crise des subprimes, etc. Mais les multiples rebondissements de la crise financière pèsent, à leur tour, sur l'économie qui ne parvient pas à sortir d'une situation marquée par un chômage élevé, par des investissements productifs poussifs et par une production industrielle globalement stagnante. L'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, commence à utiliser l'expression, entre guillemets, « grande récession », reprise par la presse économique pour parler des 4 dernières années, disons depuis 2007, début de la crise de l'immobilier américain. Les statistiques qu'elle publie, pourtant officielles donc largement manipulées, estiment que le nombre de chômeurs des pays industriels appartenant à l'OCDE est de 44 millions. Cela représente, au mois de juillet 2011, 8,2% de la population active. Ce chiffre représente, avec le taux de chômage d'octobre 2009, le pic du taux de chômage depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une moyenne. Et la situation varie d'un pays à l'autre, d'une catégorie sociale à l'autre. C'est ainsi que le chômage des jeunes entre 15 et 24 ans, estimé à 23,4% en France et 20,5% sur l'ensemble de la zone euro, atteint 46,2% en Espagne. Une nouvelle crise bancaire, se traduisant par un ralentissement, voire par l'arrêt du crédit en direction des entreprises, ne peut qu'aggraver la situation. Nombre de PME se plaignent déjà de la difficulté croissante à obtenir un crédit bancaire. Mais les conséquences de la crise de liquidité que cela amorce ne se limitent pas aux entreprises petites et moyennes. Entre guillemets, la difficulté des banques françaises fragilise les financements d'avions, titraient les Échos du 22 septembre pour affirmer que, ouvrez les guillemets, les difficultés pour se refinancer en dollars ont déjà conduit la Société Générale et BNP Paribas à fermer le robinet des financements d'avions libellés en billets verts. Or, les banques françaises jouent un rôle de premier plan dans le financement des achats d'appareils. Fermez les guillemets. et le quotidien d'insister, ouvrez les guillemets, la crise financière pourrait bien avoir un impact collatéral sur les livraisons d'avions, et plus particulièrement sur les ventes d'Airbus, fermez les guillemets. Airbus n'est pourtant pas une petite PME. Mais, en réalité, si Airbus est la première frappée, Boeing ou Bombardier risquent de l'être également. Ce n'est sans doute pas pour rien que la Banque centrale américaine, qui n'a évidemment aucune raison de favoriser Airbus par rapport à Boeing dans la concurrence planétaire à laquelle les deux entreprises se livrent, a tout de même accepté de venir au secours des banques françaises et, en collaboration avec la BCE, de débloquer un certain crédit en dollars. Les angoisses du grand capital, ou plutôt de ceux qui le possèdent. Pour aveugles et stupides que soient les marchés, les détenteurs de capitaux ne peuvent pas ne pas se rendre compte que la crise économique, dont ils constituent les principaux facteurs d'aggravation, finira par tarir les sources de leur pactole. Comme l'a résumé un rédacteur du Monde le 10 septembre 2011, les soubresauts boursiers et financiers de juillet et août, qui ont fait chuter les places de 20 à 25%, ont persuadé qu'à trop tailler dans les budgets, on s'achemine tout droit vers un redoublement de la récession qui terrorise autant les investisseurs que la perspective d'un défaut grec ou la fragilité des banques européennes dans le cas où celui-ci se produirait. Fermez les guillemets. En somme, les mêmes qui exigent des gouvernements des mesures d'austérité de plus en plus draconiennes qui appauvrissent les classes populaires, et avant tout les salariés, revendiquent en même temps des plans de relance susceptibles de relayer la consommation populaire. Mais c'est la quadrature du cercle. Lors de la crise commencée en 1929, le seul moyen qu'avait fini par trouver la bourgeoisie pour résoudre cette quadrature du cercle a été de remplacer la consommation populaire en recul par des moyens étatiques artificiels. Les grands travaux d'abord, puis, en Allemagne et partout ensuite, une politique de réarmement, l'industrie de guerre et finalement la guerre elle-même. Nous n'en sommes pas là pour le moment, mais le mécanisme est déjà là. Les échos du 8 septembre constatent que, ouvrez les guillemets, les dividendes restent élevés malgré la crise. Les analystes n'attendent pas de baisse des dividendes au titre de 2011. Ils prévoient même un nouveau montant record à presque 42 milliards d'euros sur le CAC 40. Fermez les guillemets. L'économie capitaliste est une machinerie à fabriquer de la plus-value et donc des dividendes même dans les pires périodes de crise. Mais en même temps, l'argent accumulé ne s'investit pas dans la production. Outre la spéculation sous ses multiples formes, la grande mode pour les grandes entreprises consiste à utiliser leurs fonds gigantesques à racheter leurs propres actions. Ce qui signifie tout à la fois l'augmentation future des dividendes des actionnaires et que ces sommes ne seront pas investies dans la production. L'exploitation croissante des travailleurs, les sacrifices croissants exigés des classes populaires par les plans d'austérité, non seulement n'ouvrent aucune perspective que la crise sera surmontée, mais au contraire ferment cette perspective. Illustration presque anecdotique de la folie du système, en même temps que de l'ignominie de ceux qui prétendent le diriger, cette déclaration de Fillon qui vient d'affirmer qu'il faut repousser l'âge de départ en retraite. Obliger légalement les travailleurs à travailler plus longtemps alors qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde et qu'il y a officiellement 3 millions de chômeurs, en réalité plutôt 6 millions si on compte toutes les formes de chômage. Cela signifie non seulement que les travailleurs ont le droit moral d'imposer la protection de leur emploi et de leur salaire, mais qu'arrêter la folle dynamique de l'économie capitaliste est l'intérêt vital de toute la société. Écraser la condition ouvrière pour accroître les dividendes est non seulement ignoble, mais cela pousse l'économie dans le précipice et la société dans la déchéance. L'impuissance des dirigeants, reflet de l'anarchie de leur économie. Voilà ce qui explique la panique sur les marchés et l'affolement des dirigeants politiques. Au-delà des aspects ponctuels anecdotiques des rebondissements de la crise à la suite d'une déclaration ou d'une rumeur, c'est toute la classe capitaliste qui n'a pas confiance dans sa propre économie. À en croire les hommes de la bourgeoisie eux-mêmes, tout devient possible. De la faillite des États, et pas seulement de la Grèce, à l'explosion de l'euro et de la zone d'une monnaie unique si péniblement mise en place et si utile au grand capital lui-même et au commerce intra-européen. Dans ce climat d'affolement général, les têtes pensantes de la bourgeoisie se déchirent sur des questions du genre « Faut-il aider l'État grec à rembourser sa dette ?» ce qui est une façon hypocrite de dire « Faut-il aider les banques à ne pas perdre trop de placements ?» Si oui, à concurrence de quel montant ? Faut-il mutualiser les dettes des États ? c'est-à-dire faire en sorte que les États les plus riches prennent en partie en charge les dettes des États les plus fragiles. Et si oui, de quelle façon? Par la mise en place du Fonds européen de stabilité financière, avec une garantie de prêt d'un montant de 440 milliards d'euros, déjà décidé mais pas encore opérationnel, alimenté par les États européens, l'État allemand en premier lieu. Faut-il émettre des obligations européennes, des eurobonds, comme le proposent certains? Mais, pour toutes ces solutions évoquées, il faut l'accord de tous les États de l'Union européenne, ou, du moins, l'accord des principaux d'entre eux, assez puissants pour l'imposer aux plus faibles. Aux contradictions propres au système économique capitaliste s'ajoutent les contradictions entre les intérêts particuliers des différents États, tous solidaires, certes, pour sauver les banques, mais chacun voulant que ce soit son voisin qui assume le gros de la charge. Les dégâts de la finance, expression ultime des dégâts du capitalisme lui-même. Le développement financier n'est pas seulement l'expression du parasitisme croissant de la classe capitaliste. Il a poussé jusqu'à l'absurde tous les aspects d'un système économique absurde en lui-même. La sauvagerie de la concurrence, le caractère aveugle et stupide du marché comme régulateur de l'économie sont poussés jusqu'à l'extrême dans le domaine financier. Du fait du caractère privé des moyens de production et du capital, l'économie capitaliste n'a jamais été régulable, même au temps du chemin de fer, puis de la production de masse, du fordisme, de la lutte entre puissances impérialistes pour élargir leur sphère d'influence. Mais certains aspects de la vie économique pouvaient être surveillés, si ce n'est vraiment contrôlés. La circulation des marchandises pouvait être freinée par des barrières douanières, des quotas, des tracasseries administratives, toutes sortes de choses qui, d'ailleurs, sont loin d'avoir disparu avec le capitalisme d'aujourd'hui et avec la mondialisation. Le caractère insaisissable des produits financiers, la rapidité avec laquelle ils peuvent se placer et se déplacer, la disparition progressive de la différence entre les investissements productifs et les placements financiers, ont ouvert des perspectives illimitées devant les aspects les plus néfastes des lois de l'économie capitaliste. Affirmer que personne ne maîtrise les marchés financiers est devenu une banalité tant cela apparaît évident. Cette absence de maîtrise de la bourgeoisie sur le fonctionnement de sa propre économie n'apparaît pas seulement dans l'impuissance manifeste des saltimbanques qui dirigent les États. Les réunions des G7, G20 ou des ministres de l'économie ressemblent à de mauvaises pièces du théâtre de boulevard où les rebondissements se répètent et sont tellement convenus qu'ils ne font plus rire. Mais l'impuissance est celle de l'ensemble d'une classe sociale, jusque et y compris ses têtes pensantes les plus compétentes dans leur domaine. Jean-Pierre Jouyé en est une, qui préside l'autorité des marchés financiers AMF, censée être un organisme de régulation. Dans une récente émission radiophonique, en décrivant l'impuissance à laquelle il est réduit par le système, il a donné deux indications très partielles, mais bien significatives. Constatant la réticence des grandes banques américaines à prêter aux grandes banques européennes, au risque de favoriser une nouvelle crise des liquidités, levant les bras au ciel en signe d'impuissance, il a insisté sur l'opacité totale des transferts d'argent entre les deux rives de l'Atlantique. Pourtant, ajouta-t-il, plus de la moitié de ces transactions passent par 5 ou 6 grandes banques américaines. Insistant sur l'impossibilité de toute régulation, il rappela que les 3/4 des transactions du système boursier sont le fait d'ordinateurs et sont automatisées. Le but de cette automatisation est évidemment de profiter d'infimes décalages du prix des actions sur différentes places boursières et de pouvoir jouer ainsi des sommes importantes dans un laps de temps le plus court possible. Il affirma avoir proposé, dans un récent rapport, de brider en quelque sorte les ordinateurs pour qu'une transaction boursière ne prenne pas moins d'une seconde. Voilà sa proposition la plus hardie en matière de régulation des marchés financiers dont il a la charge. Cette économie est véritablement en crise de folie furieuse. La grande récession, dont rien n'annonce la fin, représente déjà un gâchis colossal. 44 millions de chômeurs officiellement recensés rien que dans les pays de l'OCDE, c'est la population active d'un grand pays. C'est autant de forces productives dont la société se prive, tout en poussant toujours plus loin l'appauvrissement des travailleurs atteints par le chômage. Une économie de gâchis. Gâchis aussi les milliards perdus dans les opérations financières. Et il n'y a rien de consolant dans le fait de savoir qu'une partie des quelque 5500 milliards perdus dans les derniers effondrements boursiers est fictive. Ces milliards envolés, comme les milliards gagnés par quelques-uns, car il ne faut jamais oublier que même un effondrement boursier peut être source d'enrichissement pour ceux des capitalistes qui ont spéculé dans le bon sens, résulte du travail humain, de l'exploitation, mais aussi des besoins non satisfaits parce que ceux qui pourraient les satisfaire sont laissés sans travail. Alors, la seule question qui vaille pour les travailleurs n'est pas d'imaginer des solutions permettant à l'économie capitaliste de sortir du marasme que les plus grosses têtes de la classe privilégiée sont incapables de trouver. C'est de préserver leurs conditions d'existence des dégâts matériels et moraux de la crise sans s'occuper du foisonnement de solutions proposées à la bourgeoisie en fonction des circonstances. La crise elle-même et toutes ses conséquences pour le monde du travail, ainsi que toutes les politiques d'austérité menées par les États, font partie de la lutte de classe, mais d'une lutte de classe menée pour le moment exclusivement par la classe privilégiée pour sauvegarder ses propres privilèges. La situation ne peut être dénouée que par la lutte de classe menée, cette fois, par les exploités eux-mêmes contre leurs exploiteurs. Personne ne peut prévoir comment s'amorcera la mobilisation de la classe ouvrière. Tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle est nécessaire et que cette nécessité deviendra de plus en plus aiguë avec l'aggravation de la crise. Et c'est à travers la lutte pour ses conditions d'existence que la classe ouvrière peut être amenée à la prise de conscience que l'organisation capitaliste doit être détruite de fond en comble, que la bourgeoisie doit être expropriée et que l'économie doit être réorganisée sur une base plus rationnelle, planifiée, sous le contrôle démocratique de la population. C'est dans des périodes où l'économie capitaliste ne montre pas seulement son injustice, qui est permanente, mais aussi son irrationalité et son coût matériel et humain pour la société, qu'il faut que les idées communistes soient défendues, propagées, afin que le moment venu, pour paraphraser Marx, les masses s'emparent d'elles et en fassent une force agissante. 23 septembre 2011.